Avec Maria Chadré, aussi pour Judaïsme au féminin. À tout de suite.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Il est 7h, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous. Nous sommes le lundi 13 mai 2024. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h ce matin, journée très spéciale du Yom HaZikaron, le jour du souvenir. On en parle sur Radio J.
Le journal en direct de nos studios de Jérusalem.
Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Bonjour Daniel, Boker Tov. Et nous allons commencer ce journal, évidemment, par ces commémorations du Yom HaZikaron à la mémoire des soldats tombés au combat et des victimes du terrorisme.
Et oui, Ilana, c'est ce matin, 11h heure locale, que la sirène du souvenir retentira dans tout Israël. Pendant 2 minutes, les Israéliens se recueilleront à la mémoire des 25 040 soldats et officiers israéliens tombés au combat, et également à la mémoire des victimes du terrorisme. Et ensuite, ce seront des centaines de milliers d'Israéliens qui iront se recueillir dans l'un des cimetières militaires du pays. Les deux principales cérémonies se tiendront au cimetière du Mont Herzl à Jérusalem à 11h, à la mémoire des soldats, et à 13h, à la mémoire des victimes du terrorisme. Cette année, pour des raisons de sécurité, entre autres, les autorités ont demandé uniquement aux familles très proches des soldats tombés de se rendre au cimetière. On ne sait pas comment une telle mesure pourra être respectée. L'organisation sioniste mondiale organise également ce matin une cérémonie du souvenir à la mémoire des juifs de diaspora assassinés par des terroristes parce que juifs.
Et hier, les commémorations ont débuté par une très émouvante cérémonie du souvenir devant le mur occidental à Jérusalem.
Oui, effectivement, une cérémonie au cours de laquelle le président de l'État et le chef d'état-major de Tzal ont pris la parole. Le président Herzog est arrivé avec un col de chemise déchiré en signe de deuil, afin, a-t-il dit, de marquer la douleur et le deuil de toute la nation d'Israël après le 7 octobre et avec la guerre qui se déroule depuis. Il a mentionné les otages. Nous n'oublions pas que la mitzvah la plus importante est de ramener les prisonniers à la maison. Le président a ensuite expliqué qu'un soir, il a parcouru les allées du cimetière du Mont Herzl et s'est arrêté devant les tombes des soldats qui sont tombés durant la guerre. Il a évoqué les noms du colonel Roy Levy, tombé le 7 octobre au combat, de Ethan Haddad, du groupe d'intervention d'urgence de Be'eri, des frères Noam et Ishai Slotsky, qui le 7 octobre ont quitté leur domicile, leur famille à Be'er-Sheva pour aller combattre sans ordre de mission et qui sont tombés devant l'entrée du kibbutz Alomim dans le sud du pays. Le président a également parlé de l'héroïsme de tout un peuple.
Et puis, dans son intervention, le chef d'état-major a totalement endossé, on peut le dire, la responsabilité de l'armée dans ce qui s'est passé le 7 octobre.
Oui, je suis celui qui est envoyé vos enfants au combat. Je ne les connaissais pas tous, mais avec humilité, je me présente face à votre douleur. Je suis responsable de l'échec du 7 octobre et je ressens chaque jour le poids de cette responsabilité, a déclaré le chef d'état-major, le général Herzl Levy, qui a également évoqué l'héroïsme des officiers et des soldats lors de cette cérémonie devant le Kotel.
Quant au Premier ministre, il s'est exprimé dans une autre cérémonie au siège de Yad Labanim, l'association qui perpétue le souvenir des soldats.
Oui, dans son intervention, le Premier ministre Netanyahou a affirmé que notre consolation est que l'État d'Israël vit grâce au mérite de nos soldats qui sont tombés au combat et dont le souvenir demeure toujours vivace. Pour le Premier ministre, l'actuelle génération s'inscrit dans l'esprit des précédentes générations dans la défense du pays, comme nous avons pu le constater dans toute sa puissance au cours des derniers mois.
Le reste de l'actualité, on en parle selon les informations révélées par le New York Times. Yahya Sinwar ne se cacherait pas à Rafah comme l'envisagent les Israéliens.
Oui, selon ces informations, le leader du Hamas serait encore dans les tunnels de Khan Younes. Il serait entouré de nombreux otages qui formeraient sa ceinture de sécurité.
Ah, une coupure avec les studios Qualita. Daniel Haï qui nous parlait effectivement de ces informations révélées par le New York Times. Yahya Sinwar qui se cacherait effectivement à Khan Younes. Il serait entouré de nombreux otages qui formeraient sa ceinture de sécurité. Il s'agirait d'une information en tout cas sur laquelle les services de renseignement israéliens et américains seraient d'accord. En tout cas, ce sont les informations des services de renseignement. Selon des sources américaines, les infrastructures souterraines sous Khan Younes seraient très profondes et pourraient aller jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Cela n'empêche pas les Américains de continuer à exprimer leurs craintes face à une opération militaire israélienne à Rafah. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, on en parlait ce matin avec Eva, s'est entretenu avec le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Il lui a fait part de son opposition, l'opposition de Washington à l'opération en cours à Gaza. Dans le communiqué du département d'État, Blinken a insisté sur la nécessité de garantir la sécurité des civils palestiniens. Par ailleurs, les négociations sur la libération des otages sont toujours dans l'impasse. En dépit des pressions de la part des médiateurs égyptiens et qataris, aucune date n'a été décidée pour reprendre ces pourparlers. Le cabinet de guerre israélien doit se réunir mercredi cette semaine pour débattre du dossier des otages. J'espère qu'on retrouvera un petit peu plus tard Daniel Haïk, comme prévu, de toute façon à 7h30 pour la revue de la presse israélienne. Merci de nous rejoindre pour la météo ce matin. Après un magnifique week-end ensoleillé en France, et bien ce lundi, le temps redevient un petit peu perturbé avec des pluies, des averses, notamment surtout le sud et centre-ouest. Quelques rayons de soleil toutefois et des températures assez bonnes. 21 degrés en Ile-de-France cet après-midi, 23 à Lyon, 21 à Marseille. Et puis en Israël, il fait beau, 23 degrés à Jérusalem, 23 également à Tel Aviv, avec des pluies attendues toutefois aujourd'hui. Et puis à Eilat, 31 degrés.
Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian.
Et nous retrouvons à présent Daniel Rouache, président d'honneur de la Chambre de commerce Israël-France. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour Ilana.
Merci d'être avec nous ce lundi 13 mai, jour du Yom HaZikaron, jour du souvenir. Effectivement, c'est un jour triste, mais il y a aussi toutes ces belles initiatives qui sont prises, et depuis le 7 octobre, des renaissances notamment de sociétés, d'entreprises israéliennes. Et justement, ce matin, vous souhaitiez vous pencher sur la renaissance de l'incubateur South Up, je crois, après le 7 octobre.
Effectivement, nous allons parler d'un incubateur qui se trouve dans le Negev. Vous savez, Yom HaZikaron, nos auditeurs le savent bien maintenant, c'est le temps fixé par l'État d'Israël afin de rendre hommage aux soldats morts pour la patrie. Je voudrais parler pour cette chronique du kibbutz Nir Am, qui se trouve à la frontière de Gaza. Je l'ai visité, il se trouve à 500 mètres de la frontière. Lorsqu'il y a eu les crimes du 7 octobre, les habitants se sont réfugiés dans des abris. Ils ont passé plus de 16 heures dans des pièces sécurisées sans électricité, pendant que d'autres luttaient contre les terroristes. Et on a retrouvé plus tard, j'ai retrouvé les enfants et les familles du kibbutz Nir Am à l'hôtel Herodes. Je leur ai beaucoup parlé. L'hôtel Herodes, on le connaît bien, il est situé sur la plage de Tel Aviv. Et tous ces habitants, ceux qui sont réfugiés à Tel Aviv pendant un certain temps, viennent de ces kibbutz. Vous savez, les kibbutz ont toujours été liés aux grandes batailles d'Israël des années 60 aux années 80. Les militaires issus des kibbutz représentaient près de 25% du corps des officiers de l'armée israélienne, pour moins d'1% de la population totale juive. Les grands héros israéliens sont décorés de la médaille de la vaillance militaire. Il y a énormément de kibbutzniks qui ont reçu cette médaille de la vaillance militaire. Et je voulais parler ce matin de Inbal. Hier, j'ai découvert un graffiti qui est situé à Kiryat HaMelacha à Tel Aviv. Il a été réalisé par les artistes Daniel Amit et Graffiti Yul. Ce graffiti représente Inbal Rabin Lieberman, c'est une femme de 26 ans, chef de la sécurité du kibbutz Nir Am, qui a dirigé la protection du kibbutz lors de l'attaque terroriste du 7 octobre. Elle a empêché un véritable massacre dans le kibbutz. Elle a pris par elle-même, elle a dirigé l'équipe de sécurité du kibbutz sous son commandement. Elle a tué avec son équipe plus de 25 terroristes qui tentaient d'entrer dans le kibbutz. Elle est devenue une héroïne. C'est pas du tout par hasard qu'il y a des graffitis en son nom. Et ce fameux kibbutz Nir Am est le lieu où se trouve un incubateur. Cet incubateur s'appelle South Up. Et actuellement, l'incubateur est en train de renaître. South Up, cet incubateur, a été créé en 2017 pour stimuler l'entrepreneuriat technologique dans la région. South Up possède donc un site au kibbutz Nir Am. Et ces dernières semaines ont marqué un retour progressif des entrepreneurs avec la réouverture complète du centre de Nir Am. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont vécu des situations folles. Aujourd'hui, Nir Am est en train de réouvrir. C'est pas n'importe quoi, puisqu'il y a 27 sociétés qui sont liées à South Up, à cet incubateur. Ils se concentrent sur des domaines allant de l'agritech à la technologie médicale, en passant par les technologies de l'IoT. Il y a des sociétés comme Dig Robotics, Robotics, Vine Robotics, MindView, Robit Medical System. Et ce qui est très, très intéressant, c'est que le PDG de South Hub, Gil Schwarzman, a annoncé le lancement prochain d'un fonds d'impact régional pour soutenir les startups dans la région du Negev occidental. Bientôt, je vais être invité. En tous les cas, j'ai déjà reçu une invitation pour venir dans la région, visiter ce kibbutz, parce que très, très bientôt, un nouveau complexe de 3 300 mètres carrés près de la gare Sderot va être ouvert et les gens du kibbutz et Niram seront là. Vous voyez, Israël se relève oui. Parfois, toujours. C'est quand même extraordinaire de voir cet esprit entrepreneurial malgré les difficultés de la vie et cette guerre qui n'en finit pas.
Merci beaucoup en tout cas pour cette note d'espoir ce matin, Daniel Rouache. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. On vous retrouve chaque semaine.
Radio J.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian. Radio J.
Yom Hazikaron, le plus difficile, le jour le plus difficile depuis 1948. Comment le vivre cette année? Et bien justement, pour en parler, nous retrouvons Maria Chadré pour Judaïsme au féminin. Bonjour Maria Cha.
Shavuot Tov, Boker Tov, un Boker difficile aujourd'hui, le matin de Yom Hazikaron. Yom HaZikaron, la journée du souvenir pour tous les soldats tombés, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cette année, beaucoup trop. Et la question, j'ai même du mal à faire cette chronique, la question cette année, c'est sur qui pleurer. Il y a tellement de héros, il y a tellement de soldats sur lesquels on voudrait s'arrêter, on voudrait consacrer pas 3-4 minutes, mais des journées pour parler d'eux. Est-ce que je parle d'Elchanan? Elchanan qui, le matin du 7 octobre, est à la prière, à la synagogue, dans la ville de Hebron, entend qu'il y a des sirènes dans le sud, personne ne lui a rien demandé. Il prend son frère ou son beau-frère, il rentre dans sa voiture, et il va faire je ne sais plus combien d'allers-retours dans la Nova, dans la fête Nova, pour sortir des dizaines, il rentre des dizaines de personnes dans sa voiture et sous les feux, les sort, les met en lieu sûr et retourne à l'intérieur en sauver d'autres. Il va tomber dans un des combats. Il n'est armé que de son pistolet, je crois. Il va essayer de prendre une mitraillette au passage sur le corps d'une personne pour pouvoir se sauver. Est-ce qu'on parle de cet autre soldat dont j'ai oublié même le nom, pardon, et qui a été sauvé parce qu'on a vu sur lui des tzitzit et qu'on a compris que c'était une personne qui était gravement blessé sur le bas de la route et qu'on a compris que non, c'était pas un terroriste, c'était une personne qui était venue au prix de sa vie sauver d'autres. Il y aurait tellement de personnes dont on voudrait parler. Je peux également parler de toutes ces femmes enceintes qui ont accouché cette année alors que leur mari est tombé le 7 octobre. Eh bien, je crois que je vais parler en fait, parce qu'on ne sait pas de qui parler. Je vais parler de la dimension collective d'Israël. La dimension collective, c'est quand on vient pour apporter un peu de soutien à une personne endeuillée. On dit un terme incroyable. On lui dit Hamakom yenachem etrem, que Dieu, mais sous le nom de Makom, espace, un des noms de Dieu, vienne vous apporter du réconfort parmi les avelés Tzion, parmi tous les endeuillés de Tzion. On le ramène tout de suite à la dimension collective. Il y a de nombreux endeuillés dans Sion, dans la ville de Sion, la ville de Jérusalem. C'est-à-dire que son deuil n'est pas un deuil personnel, c'est un deuil collectif. Il y a les endeuillés de Sion. Et qui vient leur apporter du réconfort? Hamakom. C'est un terme particulier, le terme Hamakom. Hamakom, ça veut dire littéralement la place, l'espace. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a une place désormais qui est vide et qu'on ne sait pas comment remplir. On a l'impression que rien ni personne ne pourra jamais remplir cet espace vide. Eh bien, il n'y a que Dieu qui pourra remplir cet espace. Et je termine avec les mots du Malbim qui parle ainsi de la dimension collective d'Israël. Il dit que tous les individus du peuple d'Israël sont liés entre eux comme un seul corps. Tous ont été créés à l'image de Dieu et dans l'objectif de compléter cette parcelle divine suprême. Tout ceci inclut toutes les âmes humaines, telles un seul homme avec un seul corps, formé de ses différents membres et dont la tête aime la main autant qu'elle-même. Je termine en disant ces personnes aujourd'hui qui se recueillent au Mont Herzl, qu'on est là, qu'on est avec eux et qu'on souffre de leur douleur comme un seul corps.
Merci beaucoup Maria Chadré, merci pour cette chronique ce matin sur Radio J. Effectivement, ce lundi à 11h, heure israélienne, une sirène de 2 minutes retentira, après quoi des cérémonies auront lieu dans 53 cimetières militaires et mémoriaux.
Le 6-9, Radio J.
Radio J.
7h15, l'essentiel de l'information avec Eva Soto. Bonjour Eva.
Bonjour Ilana, bonjour à tous. À la une de l'actualité en Israël, les commémorations de Yom HaZikaron, la journée en Israël d'hommage aux victimes de la guerre et du terrorisme. Une cérémonie bien évidemment cette année sous le spectre de la guerre encore en cours à Gaza et des massacres antisémites du Hamas le 7 octobre. Plus de 1200 morts ce jour-là. En tout, depuis le 7 octobre, 6236 Israéliens ont perdu un proche. Les sirènes du souvenir vont retentir à nouveau aujourd'hui à 11h heure d'Israël, 10h pour Paris. Binyamin Netanyahou assistera à la principale cérémonie au Mont Herzl, d'autres ministres également ailleurs dans le pays. Malgré la guerre contre le Hamas depuis plus de 7 mois, le groupe terroriste reste une menace. Hier encore, les alertes à la roquette ont retenti dans plusieurs localités de la frontière sud dans la soirée à Kisoufim, plutôt dans la journée à Sderot et également sur le front nord face au Hezbollah. Pour la première fois depuis un mois, les sirènes d'alerte ont également retenti hier à Naharia. Selon le New York Times, le chef du Hamas à Gaza, Yahya Sinwar, se cacherait à Khan Younes. Sur le terrain, les médias palestiniens ont rapporté des frappes nocturnes de Tsahal dans les quartiers est de Rafah. Selon eux, Tsahal aurait utilisé des drones. L'armée israélienne a annoncé l'élimination du terroriste qui retenait Noah Marciano en otage à Gaza. Naïm Goul faisait partie des personnes chargées de la surveiller. Avant sa mort, ce terroriste était aussi responsable de nombreux tirs de roquettes. Washington voit toujours avec défiance l'opération de Tsahal lancée à Rafah. Une offensive majeure sur place. Les États-Unis sont contre. C'est ce qu'a dit Anthony Blinken hier au téléphone au ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant. Et puis en France, une manifestation contre la haine à l'école. Hier après-midi à Paris, place de la République, plusieurs centaines de personnes et des associations se sont jointes à l'appel lancé par la DDF de Franck Tapiro.
Merci beaucoup Eva Soto. Eva, on vous retrouve un petit peu plus tard dans la matinée à partir de 8h, 7h30, la revue de la presse israélienne.
Radio J, le 6-9, l'NF Radio.
Merci d'être avec nous sur Radio J comme tous les matins. Ne bougez pas, dans quelques instants, notre invité, le producteur Steve Suissa, sera avec nous justement pour nous donner son regard sur cette journée très particulière, le Yom HaZikaron. Il va aussi réagir à l'actualité et puis à suivre Pascal Sunshine en Israël. Reste avec nous.
Radio J.
Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Menace sur les démocraties. C'est le thème de la conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, organisée par le Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, mercredi 15 mai, à 19h30. Menace sur les démocraties. Mercredi 15 mai à 19h30 au Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, 11 rue du 8 mai 1945, Saint-Henri-Gozlan.
Acib Créteil.
Acib Créteil.
01 43 77 01 70.
Radio J. Le 6-9. Ilana Ferradian.
Radio J.
Israël marque aujourd'hui le jour du souvenir, le Yom HaZikaron, en mémoire des soldats tués au combat des victimes du terrorisme. Une journée qui revêt cette année une dimension particulière en raison du très grand nombre de morts supplémentaires recensés par le pays après les massacres du 7 octobre en Israël. Pour en parler, nous sommes avec le producteur et réalisateur Steve Suissa. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup Steve d'être avec nous ce matin sur Radio J. Effectivement, c'était important de vous entendre puisque vous allez organiser une soirée ce soir à la synagogue de la Victoire. Mais d'abord, Yom HaZikaron, que représente ce jour pour vous, Steve? Y a-t-il des personnes en particulier à qui vous souhaitez rendre hommage, et en particulier depuis ce 7 octobre?
Bien sûr. Je voudrais rendre hommage à toutes les familles qui ont perdu un enfant, à toutes ces personnes qui de près ou de loin souffrent d'un deuil injuste, d'un deuil effroyable, d'un deuil qui n'est pas consolable. Et pour cela, à notre humble mesure, nous allons faire une grande soirée ce soir avec le KKL, la synagogue de la rue de la Victoire, le consistoire de Paris et toutes nos équipes pour rendre hommage à ces gens-là. Nous avons conçu des films tout à fait particuliers de destin grâce à l'aide des familles, des archives du KKL, une chorale avec une vingtaine d'enfants pour chanter des chants, des prières et faire une soirée où les gens vont pouvoir se rassembler et surtout faire preuve de cette force qui est la force juive, qui consiste à rester dans l'émotion, à rendre hommage aux personnes disparues, à raconter leur destin, à raconter leur courage, et passer de cette émotion et de cette tristesse énorme à la joie, parce que nous devons avancer, parce que c'est la résilience du peuple juif.
Alors Steve Suissa, vous avez aussi réagi à ce qui se passait, à ce qui s'est passé à l'Eurovision ce week-end. Eden Golan, 20 ans, la représentante d'Israël au concours de l'Eurovision, a subi du harcèlement, des humiliations antisémites, des manifestations devant son hôtel toute la semaine dernière. Vous avez souhaité apporter votre soutien justement à Eden. C'était important pour vous de le faire?
Très. Parce qu'elle apporte un soutien à chaque fois que j'ai un événement en Israël, parce qu'elle est là, comme nous sommes là, et comme ma voisine Gal Gadot est là, et comme tous les artistes normalement constitués devraient être là, parce qu'en tant qu'artiste, nous sommes citoyens du monde. Mmh. On pourrait jouer demain à Baalbek, on pourrait jouer demain dans n'importe quel pays ou dans n'importe quelle ville du monde, normalement. Le seul endroit où il y a la paix dans le monde, c'est une salle de spectacle. Tout simplement parce qu'on est dans le noir, on est collé à des gens qu'on connaît pas et on partage ensemble des émotions. Et là, ce courage, cette mission qu'a eu cet artiste est complètement incroyable. Elle est à saluer. Pour moi, de toutes les façons, elle a gagné. Vous savez, c'est comme la métaphore du Rocky IV où Stallone se retrouve en Russie pour aller combattre et se fait huer par tout le public jusqu'au moment où certaines âmes et certaines personnes dans la salle s'aperçoivent qu'elle donne tout son cœur et finissent par l'applaudir. Mmh. C'est exactement ce qu'elle a vécu. Et quand quelques médias ont rapporté avec de l'honnêteté ce qui s'est passé, en dehors des applaudissements qui, à mon sens, ont été rajoutés, on s'aperçoit que cette fille-là a eu un courage incroyable. Vous vous rendez compte? Une artiste qui va chanter une chanson, un hymne, et qui est obligée d'être entourée de 100 policiers et de vivre dans un blocos pendant 48 heures juste pour chanter.
Effectivement. Eden Golan, qui n'a en plus que 20 ans, et on l'a vu au retour, à son retour en Israël, qui pleurait effectivement avec ses amis, sa famille. Alors, pour terminer, Steve, on souhaitait aussi parler de cette mise en scène que vous faites, de la pièce sélectionnée à nouveau avec Amir dans les prochains jours. Ce sera le mardi 21 mai, et une pièce qui se jouera au Palais des Glaces.
Exactement. Le 21 mai, pour le collectif 7 octobre, la pièce sélectionnée qui raconte l'histoire du nageur Alfred Nakache, qui est un destin incroyable. Nous avons fait plus de 200 représentations dans la France les deux dernières années, se joue au profit des kibboutz pour le collectif 7 octobre et pour que toutes ces recettes et que tous ces profits aillent à tous ces gens pour qu'ils puissent enfin retrouver la paix, le calme, ou en tous les cas qu'ils puissent ressentir qu'on pense à eux à chaque minute.
Et on peut encore participer ou c'est complet, Steve ?
Non, on peut encore. Il reste quelques places. C'est dans quelques jours. Donc, je vous invite à y participer. Ce sera une soirée émouvante, digne et qui a du sens.
Eh bien, merci beaucoup, Steve Suissa, d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Radio J. Merci d'avoir été avec nous. On peut vous retrouver, bien sûr, sur vos réseaux sociaux. Steve Suissa, qu'on retrouvera très bientôt également, puisque d'autres événements à venir, on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Merci infiniment et très bonne semaine. Merci.
Radio J, Zoom Israël, Pascal Sunshine.
Radio J. Et on revient à l'actualité en Israël avec notre correspondante Pascal Sunshine. Pascal, ce matin, on revient évidemment sur ces cérémonies du Yom HaZikaron, des cérémonies qui se tiennent dans un climat très particulier cette année. Bonjour Pascal.
Oui Ilana, Yom HaZikaron, la journée à la mémoire des morts tombés dans les guerres d'Israël. Et cette année, la mémoire se confond avec le présent. Elle n'est pas encore une mémoire. Comment peut-il en être autrement quand hier, seulement hier, 5 familles ont suivi les cercueils de leur fils tué vendredi à Gaza. Depuis le 7 octobre, 1533 noms se sont ajoutés à la liste des morts. 822 civils, dont 40 enfants et mineurs, et 711 membres des forces de sécurité, dont 620 soldats et soldates de Tsahal. Des chiffres qui donnent le vertige, car ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies fauchées, des familles décimées, des histoires inachevées. Hier soir, partout dans le pays, les sirènes ont retenti durant une minute et durant une seconde, le cœur s'arrête. Alerte ou hommage. Mais la même note continue et on comprend que ça n'est pas un bombardement. Le garde-à-vous prend fin dans la nuit froide, car il fait froid à Jérusalem, dans la cour du centre communautaire de Baka. Comme chaque année, des centaines de chaises en plastique ont été disposées, mais elles ne suffisent pas. Dans les travées et dans la rue, la foule continue à se masser. Les enfants se regroupent sur les côtés, les parents et les grands-parents s'assoient. Il y a les drapeaux d'Israël qui claquent au vent et celui qu'un jeune soldat met en berne. Il y a les lettres du mot « Iskor », souvenirs qui vont être enflammés. Et sur le mur d'un immeuble, une banderole à l'effigie de Hersch Goldberg-Polin, un jeune du quartier, otage à Gaza depuis 219 jours. Car cette cérémonie, elle n'est pas abstraite. Ceux à qui l'on rend hommage, ce sont des enfants du quartier. Ils ont été élèves au lycée du quartier, ils ont joué au foot sur les pelouses du quartier. Ils y sont venus passer les Shabbats chez leurs grands-parents ou y ont fréquenté les mouvements de jeunesse. David, Israël, Netanel, Hanan, tombé à Gaza, avait grandi ici. L'oncle d'Israël Amichai vient parler de son neveu, tué le 7 octobre au kibboutz Kerem Shalom, où il s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour sauver sa famille et ses voisins. Il avait 33 ans. Aner, lui aussi, avait des copains dans le quartier. Sa tante a raconté ce garçon au sourire lumineux qui était au festival Nova le matin du 7 octobre. Sans armes, il avait défendu un petit abri de béton où s'étaient réfugiés d'autres jeunes. Les survivants ont raconté comment il avait renvoyé les grenades jetées par les terroristes avant l'explosion de celle qui lui a été fatale. Nous ne savions pas que ce héros de 22 ans avait été un de ces gamins croisés dans les rues du quartier. Le rabbin de Baka a eu du mal à contenir ses sanglots au souvenir de ceux dont il avait célébré la bar mitzvah et parfois même le mariage. Il y avait de la tristesse, il y avait de la douleur, mais pas de haine, seulement une communion, une force qui enveloppait tous ceux qui étaient réunis dans la nuit froide. Une force faite de fierté, de vie et d'espoir, la même dans tout le pays, celle du peuple d'Israël, debout malgré tout.
Merci beaucoup Pascal Zonshine pour ce Zoom Israël, cette chronique émouvante ce matin sur Radio J. Effectivement, on pense à toutes les familles endeuillées depuis le dernier Yom HaZikaron. Ce sont 766 soldats et 834 civils qui se sont ajoutés au décompte des victimes de la guerre et du terrorisme. On en parle tout au long de cette matinée sur Radio J. Merci beaucoup Pascal. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 8h sur Radio J. Ne bougez pas, dans quelques instants, la revue de la presse israélienne avec Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem. Bien sûr, le quart d'heure politique à suivre avec d'abord le billet d'humour de Nicolas Raffal et l'invité de Christophe Barbier. Ce matin, c'est Pierre-Alexandre Anglade, directeur de campagne de Valérie Ayer, qui répondra notamment à toutes les questions concernant cette photo de Valérie Ayer prise en photo avec des militants néo-nazis. À tout de suite.
Radio J.
Le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.
Il est 7h30, bonjour et bienvenue sur Radio J. Merci d'être avec nous comme tous les matins. Nous sommes le lundi 13 mai 2024, 220e jour de guerre contre le Hamas et toujours 133 otages dans la bande de Gaza. On en parle sur Radio J.
Le direct de Jérusalem vous est offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël.
keren-hayesod.fr.
Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, ce matin, comme à la veille de chaque Yom HaTzmaout, mais cette année avec plus d'intensité encore, les quotidiens israéliens ont la redoutable mission de trouver le juste milieu entre les commémorations du Yom HaZikaron d'aujourd'hui et les festivités du jour de l'indépendance qui débuteront ce soir. On va tenter de retrouver Daniel Haïk à Jérusalem. Quelques problèmes techniques depuis quelques jours, on s'en excuse évidemment, mais on va retrouver Daniel Haïk à Jérusalem pour parler de ces journées très importantes. Le Yom HaZikaron, le jour du souvenir, on le disait, 766 soldats, 834 civils qui s'ajoutent au décompte des victimes de la guerre et du terrorisme depuis l'an dernier, et cette journée qui revêt une dimension très particulière cette année, effectivement, en raison du très grand nombre de morts le 7 octobre dernier. Au total, depuis 1860, ce sont 25 000 personnes qui ont été tuées. Et depuis le 7 octobre, Israël compte 1294 parents endeuillés, 248 veuves, 520 orphelins supplémentaires. Oui, c'est important de donner tous ces chiffres qui montrent aussi la réalité d'Israël. On n'a pas retrouvé pour l'instant Daniel Haïk pour la revue de la presse, mais effectivement, les unes du Yediot Aharonot et du Israel Hayom sont dans cet esprit. On y voit deux photos, l'une plus petite d'une soldate déposant un petit drapeau sur la tombe d'un soldat au cimetière militaire de Kiryat Shmona dans le nord, et en plus grand, une photo de jeunes enfants israéliens du kibbutz Yad Mordechai qui brandissent un grand drapeau bleu et blanc. Le kibbutz Yad Mordechai porte le nom de Mordechai Anelevitz, le commandant de la révolte du ghetto de Varsovie. Il a été évacué après les massacres du 7 octobre auxquels il a échappé grâce à la bravoure des membres de son groupe d'intervention d'urgence. Et puis des unes très émouvantes, notamment celle du Israël Hayom, une qui insiste sur l'avenir et sur l'espoir. On y voit une immense photo de quatre soldats israéliens de dos marchant vers l'horizon et entourant deux petits enfants du kibbutz Niram dans le pourtour de la bande de Gaza, comme si ces soldats accompagnaient finalement ces enfants meurtris vers leur kibbutz. En cette journée du souvenir, la sirène retentira donc à 11h. Heure israélienne, 10h, heure française. Daniel, est-ce que vous m'entendez ? Non, Daniel ne m'entend pas. On va continuer.
C'est un proche, comme ce reportage du Israël Hayom sur les policières israéliennes qui sont tombées au combat le 7 octobre et qui ont laissé un mari, un compagnon dans la douleur, comme par exemple Mor Shakouri qui a été tué dans le commissariat de Sderot. Et même dans le Yediot Aharonot, on évoque la douleur des policiers, des 1645 policiers qui sont tombés depuis la création de l'État d'Israël, dont 62 qui ont participé au combat du 7 octobre, du 7 et du 8 octobre, et qui ont lutté pour freiner la progression des terroristes du Hamas. Le Yediot Aharonot donne ce matin la parole aux enfants de ces policiers, comme Lior Lebovitz, qui, après que son père, officier de police, soit tombé, a décidé de s'enrôler dans la police. Le Maariv lui a choisi de placer en page d'ouverture de son site ce matin un reportage sur les nouvelles familles endeuillées, celles qui ont perdu un proche le 7 octobre et pour qui c'est le premier jour du souvenir, comme Effie Regev, qui écrit sur sa fiche Shai Regev, qui était membre de la rédaction du Maariv et qui a été assassiné à Reim sur le site du festival Nova. Alors qu'écrivent les éditorialistes ce matin en cette journée de deuil national qui précède les festivités du jour de l'indépendance? Nous commencerons par ceux du Yediot Aharonot avec Hanor Dom qui a le privilège d'écrire l'éditorial central de la première page du Yediot Aharonot de cette veille de Yom HaTzmaout qui écrit: le 7 octobre, nous avons découvert beaucoup de choses sur nous, que nous sommes entourés d'ennemis qui nous haïssent, que nous avons une jeune génération qui, à l'heure de vérité, a combattu sans peur, que nous avons des réservistes dévoués, des civils, des groupes d'intervention prêts à se sacrifier. Nous avons découvert que, même au du plus profond de nos clivages, nous avons su retrouver le 7 octobre l'unité qui nous a permis de combattre. Mais outre cet éditorial de Hanor Dom, il y en a d'autres qui reprennent justement ces mêmes symboles de l'espoir. Le colonel Benny Aaron écrit à propos du Yom HaZikaron: ce qui a remonté notre morale durant ces 7 derniers mois, c'est l'accolade des familles endeuillées et l'héritage que les soldats nous tombés nous ont laissé. Nous ne désespérerons jamais, jamais nous ne nous briserons jusqu'à la victoire, car c'est ce que nous ont demandé nos frères d'armes tombés au combat. Ren Artsisror titre elle aussi son éditorial sur un mot: tikva, l'espoir, qui semble de plus en plus être, plus que jamais, être le mot-clé de la pérennité d'Israël. Dans ce traumatisme dans lequel nous évoluons depuis le 7 octobre, le romantisme des cérémonies peut certes nous aveugler, mais le seul moyen de reconnaître la réalité et de l'endosser envers et contre tout, c'est l'espoir, la tikva. Et c'est cet espoir doublé d'une foi en Dieu, à toute épreuve, qui anime le Rav Chaim Sabato. Le Rav Sabato n'est pas seulement un grand rabbin, c'est aussi un écrivain très célèbre en Israël, en particulier pour les récits de sa guerre de Kippour il y a 50 ans. Et ce matin, il écrit dans le Yediot Aharonot: des générations de juifs ont rêvé de vivre ce que nous vivons. Ma génération a vécu l'obscurité la plus totale de la Shoah avant d'apercevoir la gazelle, symbole de la délivrance, au travers de l'État d'Israël. Dans le Yisraelayom, on note également dans les éditoriaux de ce matin cette dualité entre les deux journées sacrées du Yom HaZikaron et du Yom HaAtzmaout, et ainsi cette notion d'espoir en des jours meilleurs.
Coupure, nouvelle coupure avec les studios Qualita. Effectivement, beaucoup de difficultés à les joindre depuis quelques jours, les amis. En tout cas, un point pour cette revue de la presse. Le titre principal à retenir, c'est le Yom HaZikaron. Aujourd'hui, la sirène d'alerte qui retentira à 11h, effectivement. Et tout le monde, en tout cas, toutes les familles endeuillées sont appelées à commémorer les leurs dans les 53 cimetières militaires et mémoriaux de l'État d'Israël. Et le ministère de la Défense qui demande effectivement à tous ceux qui ne font pas partie des familles endeuillées de visiter les cimetières après les cérémonies commémoratives. À noter qu'à 11h02 heure israélienne, une formation d'avions de chasse survolera la cérémonie militaire au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem.
Le direct de Jérusalem vous a été offert par le Keren Hayesod. Depuis plus de 100 ans, le Keren Hayesod soutient les plus fragiles en Israël. Depuis le 7 octobre, les victimes du terrorisme sont la priorité du Keren Hayesod. 300 000 déplacés, une population entière traumatisée. Les besoins sont immenses. Aidons-les.
Keren-Hayesod.fr.
Ensemble, nous vaincrons.
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À tout à l'heure.
Radio J.
Vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière?
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusion sanguine, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Vous voulez réduire ou annuler votre IFI et soutenir l'action sociale de la Fondation Kazib Kojazor? Donnez maintenant au Kazib Kojazor et bénéficiez de 75% de réduction sur votre IFI ou sur votre impôt sur le revenu. Grâce à vous, nous poursuivons notre action sociale auprès de dizaines de milliers de personnes. Appelez-nous sur notre ligne dédiée 01 49 23 71 40 ou connectez-vous sur www.kazib.fr. Avec le Kazib Kojazor, la solidarité nous rassemble.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Depuis le 7 octobre, le KKL est sur tous les fronts pour aider les populations d'Israël. Aide financière d'urgence pour les villes du sud du pays, transport et relogement des populations évacuées vers le centre du pays, soutien financier au centre d'aide psychologique, accompagnement éducatif. Le KKL agit quotidiennement pour le peuple d'Israël. Continuez à nous aider, à les aider. Faites un don sur don.kkl.fr/urgence. KKL de France, 01 42 86 88 88.
Le 6-9, Ilana Ferradian.
Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'invité de Christophe Barbier, Pierre-Alexandre Anglade, directeur de campagne de Valérie Ayer. Mais sans plus tarder, c'est le billet d'humour avec Nicolas Raffal. Bonjour Nicolas, le troubadour Nicolas. Comment ça va Nico?
Je sais pas vous, mais moi, je sens comme une odeur de poudre dans le Landerneau. On n'entrave plus rien à la politicaille. Plus personne n'esgourde personne.
Bah, vous parlez bizarrement ce matin, Nicolas, on dirait de l'argot.
C'est la jactance généralisée, Ilana, qui nous remplit les bobines. On a le réservoir full et c'est pas que du sans-plomb. Chacun cause dans son dialecte et moi, je suis comme les Vistros chez les Indiens Bororo.
Bon, qu'est-ce qu'il y a, Nicolas? Qu'est-ce comme on dit?
Miskine, les tarots font grimper la tambouille, c'est le rôti une fois dans la semaine. À l'école, tu risques un coup de canif dans le cervelas à cause que t'as reluqué une gonce pas michetonneuse. Iran, Gaza, on fait pas les marioles, ça siffle sur les grelots, ça claque des roubignoles. Bientôt, les Européens de la haine avec une gauche foncedée, les socialos qui sont sur les roses.
Ah oui, vous avez gros sur la patate, hein. Ce matin, vous avez l'idée noire qui colle au chou-rave.
J'ai le burn-out. Les écolos sont dans les fraises, la droite a le flanc qui colle au ramequin. Bellamy, de Maupassant. Maupassant son tour, ouais. Bardeluche s'échappe plein pot au pied du col et Corbac le maillot jaune des leaders. La Marion Maréchal lave la pas vraiment. Elle est fraîche, mais elle est restée comme la Stella Artois à 5%. Elle est fille qui nous lâche le coulant sur la fiole et le tché qui veut nous refiler la vérole. Faudrait lui fermer son clapoir avant que Panot, qui se prend pour Simone Veil, se prenne pour Beauvoir.
Alors les autres croquignoles?
Bah, les centristes sont décentrés, les fachos-fâcheux avancent groupés dans le peloton, ils sont pas encore dans la casse-bas, mais ils peuvent y foutre leur arpion façon 2027. Les cocons, les noix qui greluchent au paplard, Ilana. Les écolos maroufent dans la bassine, le Glucksmann 12%, on dirait un apérol, il décolle pas. Un Boeing après vérif à la maintenance.
Bref, ça claque pas du swing, hein, cette campagne.
C'est Waterloo, Morne-Plaine, les michetons et michetonnes qui n'esgourdent plus le politicard et ont envie de glisser le bulletin dans l'urne façon belliqueux. On sent bien que c'est pas en se maillotchant les crapauds qu'on va sortir du merdier. Faut turbiner du cibou. L'heure est au conglomérat, à la réunion de copropriétaires. Ah, c'est sûr, faut se débâcher pour aller gratter. Il y aurait que tringle à becter dans la carrée si j'allais pas aux épinards ce matois. Mon choléra ressusciterait.
Votre choléra?
Bah, ma femme, mon choléra. En argot, mon choléra ressauterait et les salés gueuleraient au charron pour l'artif.
Les salés?
Bah, c'est les enfants, les gosses, hein, ça coûte cher. Hein. En plus, j'en ai pas. Là, je suis marron. C'est assez qu'hier, je suis revenu carton. Vous comprenez ce que je raconte là ou pas?
Bézef Macache.
Bah, moi non plus. On est dans la mouscaille, dans la mouise. On paye pour les empaffés qui sont gavés, ils ratissent tout, là, le Tavares.
Oui, le directeur général de Stellantis.
Bah, il a le Porto avec un glaçon au fond, le Lusitanien. Ils veulent qu'on se serre le kiki pendant que les tauliers se torchent au ruinard. Alors, j'avais une phrase pour Christophe Barbier.
Je peux la dire si
vous
voulez.
Alors, allez-y, Christophe.
Alors, quand je suivrai ton costume sans manche en sapin vers le boulevard des Allongés, je te promets que t'auras droit à un cactus sur le buffet.
Ah, bravo, on en fait une petite autre, Christophe?
Avant tu cassais des noix, maintenant tu ferais pas de mal à un petit Suisse.
Putain, vous êtes incroyable, maestro, c'est le leader du groupe.
Bon, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas?
Bah, on sent bien qu'avec le beau gosse de Rothschild qui nous lèche la couenne, mon Dieu, ça dégouline, l'ordre des Richards doit régner, il veut palper tout notre pognon. Et tout ça sans plus aucune autorité, hein. Ah, ça joue plus du clairon, hein, Macache. Macron, c'est Montessori appliqué à la politicaille. Et le Attal, il a encore les pampers au slibard. Alors nous, les Français, on tortine la chignole, on tutute l'agneau, on a le gosier anémié, la Valoire desséchée comme un pruneau.
Mollo sur le piccolo, Nicolo.
Bah, heureusement, il y a le Barbiero. Ah ouais, le barbeur, il va nous faire un adagio, l'adagio de barbeur, il va nous esgoinfrer la pluche. Il va tout nous expliquer, si vous préférez, il va encore se faire écharper par la méluche. Il aurait la stif mise à prix sur des affiches de mercenaires, le genre wanted, mais personne veut payer. C'est vrai que le genre goudron et plume lui colle plutôt bien au basque. Le Barbiero, c'est un peu le John Wayne de l'éditaille politicard. Hein. Ah, méluche, j'y attendrai bien la viande, en y collant un pruneau sur l'estafette comme un vieux flic dans une manif. Il est beurré comme un petit lume, Méluche. Qu'est-ce qu'il lui prend? Il a la rage ou la coqueluche?
Bon, c'est vrai que c'est pas Coluche, c'est pour faire des rimes en huche. Hein. On est presque rendu à la finale de cette chronuche. Alors, en conclusion, Nicolas.
Bah, je suis comme Jean-Claude Duss, je sens que je vais conclure. Alors, toute cette nouvelle langue me carre la trompe, j'ai les écoutilles en déficience. Je suis comme Van Gogh après le coup de canif ou Beethoven après la 9e. Ou Mélenchon qui est sourd d'une breloque et qui doit se faire changer le pochet Midas. À bon entendeur.
Merci beaucoup, Nicolas Raphaël, pour cette chronique très amusante. Ce matin, très particulière, très originale. On aime beaucoup.
Bah c'est pour dire qu'on comprend plus rien. On comprend plus
à votre image.
Voilà, heureusement.
En tout cas, Barbier, le maestro, arrive enfin en studio avec son invité Pierre-Alexandre.
Vous auriez pu parler en argot.
Et oui, c'est la scène à Nicolas.
Il vous avait préparé des petites relances théâtrales.
Une, juste Christophe en argot.
On a envie de vous entendre, l'homme de théâtre qui est Christophe Barbier.
En argot.
Voilà, il cherche.
Alors, quand je suivrai ton costume sans manche en sapin vers le boulevard des Allongés, je te promets que t'auras droit à un cactus sur le buffet.
Oh, c'est magnifique.
Bravo. Merci beaucoup. Christophe Barbier, tout de suite votre invité, Pierre-Alexandre Anglade, directeur de campagne de Valérie Ayer.
Les grands débats commencent sur Radio G.
Sur Radio G.
Pierre-Alexandre Anglade, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue, vous dirigez donc la campagne de Valérie Ayer. Vous êtes aussi député, vous représentez les Français de l'étranger, les Français du Benelux. Hier, Valérie Ayer a connu une mésaventure, elle a été piégée par des militants d'ultra-droite, néo-nazis. Comment ça s'est passé exactement?
Bah, ça s'est passé comme souvent avec l'extrême droite, c'est-à-dire que Valérie Ayer, qui se promenait dans les rues de Paris un dimanche après-midi tranquillement, a été interpellée par quatre individus qui lui ont réclamé une photo. Elle n'a pas... Vu ce qui était inscrit sur leurs vêtements, elle a, comme à chaque fois, accepté de faire la photo. Ils ont ensuite publié cette photo sur les réseaux sociaux qui ont commencé à tourner sur des réseaux d'extrême droite. Donc, ce sont les manœuvres indignes de l'extrême droite, des néo-nazis, de toutes celles et ceux qui aujourd'hui prospèrent dans notre pays. On a vu des manifestations il y a 48 heures en France qu'on ne pensait plus voir dans notre pays.
Cette manifestation était interdite par la préfecture, elle a été rétablie par la justice. Ouais. Vous le déplorez?
Oui, je le déplore, parce que les défilés d'extrême droite n'ont rien à faire dans les rues de France. Il y a déjà suffisamment de troubles et de tensions dans notre pays en ce moment pour qu'on s'ajoute des difficultés supplémentaires avec l'extrême droite la plus rance et la plus abjecte qui soit. Et on le voit aussi en Italie, on le voit dans plusieurs pays européens. Et donc il y a une lame de fond nationaliste, identitaire, populiste, extrêmement inquiétante en France et en Europe. Et donc il faut la combattre de toutes nos forces.
Ce qui était inscrit sur l'un des vêtements portés par ces gens, c'était « The White Race », la race blanche. Certains sur les réseaux sociaux disent « ça se voyait quand même ». Est-ce que la candidate a été naïve?
Vous savez, Christophe Barbier, vous êtes une personnalité publique, les responsables politiques le sont aussi. Nous sommes régulièrement arrêtés dans la rue par des personnes que nous ne connaissons pas. Nous acceptons de prendre des photos par bienséance et par gentillesse et par ouverture. On ne regarde pas toujours ce qui est inscrit sur les vêtements des uns et des autres. Elle n'a pas vu, elle s'est faite piéger. Et derrière, l'extrême droite a essayé d'instrumentaliser cette photo. Et donc, il faut plutôt défendre Valérie Ayer et s'indigner des méthodes de l'extrême droite plutôt que d'essayer de faire une mauvaise polémique sur les tenues de ces personnes.
Est-ce que vous pensez que les oppositions à Valérie Ayer, ses concurrents, vont exploiter cela ou est-ce que vous avez réussi à endiguer cela?
En tout cas, ce que je sais, c'est que dans l'ensemble des familles politiques françaises, cela est arrivé à beaucoup de personnalités. C'est pas la première fois que quelqu'un se fait prendre en photo avec des personnes peu fréquentables, et c'est le peu de le dire, en l'occurrence, ce sont des néo-nazis. Je crois pas que les autres le feront. En tout cas, s'ils le feraient, ce serait pas très extrêmement malin, parce que ça peut arriver à beaucoup de monde.
On a tout fait pour essayer d'endiguer ce retour de l'ultra-droite néo-nazi, des dissolutions de groupes, des interdictions de manifestations. On a l'impression que c'est vain. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il faut continuer. Il faut continuer à dissoudre à chaque fois qu'un groupuscule menace l'ordre public. Ça a été le cas de manière régulière depuis 2017. Notamment sous l'impulsion, et encore plus récemment sous l'impulsion de Gérald Darmanin. Donc il faut continuer à les dissoudre, à les combattre, à mener un travail de renseignement, parce que l'ultra-gauche menace le pays, on le voit régulièrement, mais l'ultra-droite est de plus en plus présente, avec parfois des projets dangereux pour la société, donc il faut continuer à les traquer et à les dissoudre à chaque fois que c'est possible.
L'autre polémique du week-end, c'était autour de l'Eurovision. LFI, la gauche radicale, demandant l'exclusion de la candidate israélienne. Comment vous avez interprété cette manœuvre de la gauche radicale?
Bon, moi d'abord, je voudrais dire que j'étais profondément choqué par ce qui s'est passé ce week-end à Malmö. La manière dont Eden Golan a été traité est profondément indigne et je crois devrait heurter la conscience et la sensibilité de chacune et chacun d'entre nous. Parce que derrière les attaques contre Eden Golan, il y a d'abord et avant tout la haine d'Israël, et derrière la haine d'Israël, la haine des Juifs. Et cette ferveur étrange à laquelle on a assisté à Malmö ce week-end, c'est cette même ferveur que l'on retrouve dans les campus américains, que l'on retrouve à Sciences Po, et je trouve cela extrêmement inquiétant. Et donc, moi, je condamne ce qui s'est passé autour d'Eden Golan, et je lui apporte évidemment tout mon soutien, et je m'inquiète de cette ferveur étrange qui habite le monde, et qu'on ne retrouve pas pour d'autres conflits de la planète. Vous voyez, moi, je ne vois pas les mêmes mouvements pour les Ouïghours, pour les Ukrainiens qui sont martyrisés,
pour l'Arménie.
Par les Russes, par l'Arménie. Et donc, il y a quelque chose de bien étrange derrière tout cela, et je pense qu'il faut le dire. C'est quelque chose d'étrange, c'est la haine des Juifs, c'est la haine d'Israël.
Le vote du public a propulsé de la 12e à la 5e place la candidate israélienne. Peut-être que l'opinion, les opinions profondes ne se trompent pas.
Non, les opinions ne se trompent pas, mais il y a quand même une lame de fond et un mouvement qu'on ne peut pas ignorer dans nos sociétés. Ce que je vous disais, des États-Unis jusqu'en France. Et cela est extrêmement inquiétant parce qu'ils sont soutenus par des formations politiques. Vous évoquiez la France insoumise qui porte une très lourde responsabilité dans notre pays, dans ce regain d'antisémitisme auquel nous assistons depuis les attentats effroyables du 7 octobre dernier. Et moi, je trouve que les déclarations qui ont été celles encore des responsables insoumis ces derniers jours sont profondément indignes. Mais ils sont au fond indignes depuis le 7 octobre quand ils ont qualifié les attaques barbares perpétrées par le Hamas d'actes de résistance. Ça n'a rien à voir avec de la résistance, c'est du terrorisme pur et dur dans tout ce qu'il y a de plus abject.
L'offensive de l'armée israélienne se poursuit à Rafah. La France, les États-Unis continuent à faire pression pour qu'elle s'arrête. Vous êtes solidaire de cette position du gouvernement pour penser que c'est ce qu'il faut tenir comme position?
Je crois d'abord qu'il faut toujours réaffirmer le soutien indéfectible à Israël et son droit absolu à se défendre. Parce qu'il ne faut pas oublier d'où partent les opérations menées par Tsahal que nous connaissons depuis maintenant 6 mois. Ça part depuis l'attentat terroriste vraisemblablement le plus effroyable qu'un pays ait eu à connaître depuis de très nombreuses années, à savoir les attentats perpétrés par le Hamas. Depuis lors, Israël a le droit de se défendre, mais Israël doit évidemment toujours le faire dans le respect du droit international. Et moi, ce que je souhaite, en ligne avec la position constante de la diplomatie française, c'est que nous arrivions à un cessez-le-feu qui soit durable pour permettre l'apaisement et puis pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, parce que nous voyons bien que la situation devient là aussi intenable. Et donc l'opération de Rafah, avec tout ce qu'elle emporte de danger, de déplacement de population, est évidemment à proscrire, à éviter.
Dans 4 semaines, nous aurons voté pour les élections européennes, ça sera le 9 juin. Quand vous regardez l'état des sondages, quel est votre but aujourd'hui? Vous continuez à penser pouvoir rattraper le Rassemblement National?
Nous voulons faire le score le plus élevé possible, parce qu'au fond, ce qui se joue le 9 juin prochain, c'est pas forcément l'avenir du gouvernement ou de la majorité comme Jordan Bardella le souhaiterait, se pensant déjà Premier ministre à la place du Premier ministre. Ce qui se joue, c'est au fond de savoir ce que nous allons choisir comme Europe pour les 5, 10, 15 prochaines années, à un moment donné où les défis qui sont devant nous sont des défis globaux, extrêmement importants et qui exigent une réponse unie, soudée, à 27. Et donc nous voulons faire le score le plus haut possible pour pouvoir porter cette volonté d'Europe puissance incarnée par le président de la République depuis 2017. Et depuis 2017, la France change l'Europe. Et donc nous voulons aller plus loin, plus fort sur ce sujet. Et c'est ça qui est en jeu. Au fond, c'est pas de savoir si le Rassemblement National ou qui que ce soit sera devant ou très loin devant.
C'est un signe quand même de colère des Français, d'angoisse, d'inquiétude.
Oui, mais on a besoin d'avoir la liste pro-européenne que nous sommes, qui soit le plus haut possible, parce que c'est d'abord la capacité à continuer à transformer l'Europe. C'est la place de la France aussi qui se joue dans cette élection. Parce qu'évidemment, Emmanuel Macron est le leader politique de l'Europe. Mais cette liste qu'il soutient a besoin de faire le meilleur score possible s'il veut continuer à impulser en Europe et être le leader politique qu'il est aujourd'hui. Donc c'est tout ça qui se joue.
Être dépassé par la liste de Glucksmann, ça ne vous inquiète pas avec une espèce de gauche non mélenchoniste qui se regrouperait?
Moi, je pense qu'il y a un malentendu sur ce qu'est la liste Glucksmann. Moi, je considère que la liste Glucksmann est une liste d'insincérité, parce qu'en réalité, derrière les grands discours européens de Raphaël Glucksmann, à chaque fois qu'il a fallu voter les textes importants de la législature au Parlement européen, les textes un petit peu structurants, Monsieur Glucksmann a calé, que ce soit sur le pacte asile et immigration, que ce soit sur le plan de relance qui est venu soutenir nos artisans, nos commerçants, nos TPE, nos PME, nos agriculteurs, il ne l'a pas voté. Le renforcement d'Europol, la loi climat, tous les grands textes du mandat, il ne les a pas votés. Et par ailleurs, sa liste, vous me dites une liste non mélanchoniste, mais sa liste, elle est peuplée d'apparatchiks de la NUPES, d'hommes et de femmes qui, au printemps 2022, au moment des législatives, sont venus faire le pied de grue devant le QG de Jean-Luc Mélenchon pour obtenir une place aux législatives. Et donc en 2022, ils étaient Mélenchon parce que c'était à la mode, mais Mélenchon était déjà celui qu'on connaît aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ils le sont un petit peu moins parce que Mélenchon serait devenu infréquentable. Je pense qu'il ne faut pas être dupe de ce qu'est cette liste. Moi, je considère que c'est la liste de l'insincérité.
Dans ce combat pour la campagne européenne, le débat Attal-Bardella, attendu pour le 23 mai, peut vous être utile? Ça va au contraire nationaliser encore le scrutin?
Non, moi je souhaite que le Premier ministre s'engage avec le plus de force possible dans la campagne, parce que c'est d'abord le chef de la majorité, la majorité la plus européenne de la 5e République, et donc c'est son rôle aussi de mener campagne et de mener la bataille, et il le fait, il sera d'ailleurs ce soir en réunion publique à Lyon avec Valérie Ayé, et moi je considère que Gabriel Attal est un atout dans cette campagne, et donc on a besoin aussi d'avoir le chef du gouvernement qui va mener le combat contre Jordan Bardella, contre le Rassemblement National, contre son projet d'effacement et de délitement de l'Union européenne.
Un débat Macron-Le Pen a été envisagé. L'Élysée disait, tiens, pourquoi pas? Puis Marine Le Pen a répondu hier, elle a dit, elle veut bien, mais après le 9 juin.
Oui, peut-être qu'elle est embêtée sur les sujets européens et qu'elle souhaite repousser l'échéance. Écoutez, je ne sais pas. Ça, je laisserai le chef de l'État et sa concurrente le décider le moment venu s'il souhaite le faire. En tout état de cause, Emmanuel Macron est celui qui a remis l'Europe au cœur du débat politique national, celui qui a refait de l'Europe un enjeu prégnant de notre vie politique, celui qui transforme l'Europe depuis 2017, et je sais qu'il a encore beaucoup de choses à dire aux Françaises et aux Français sur le sujet européen.
Ce qui se passe en Ukraine avec une armée russe qui avance, ça va jouer aussi dans la campagne?
Ça nous démontre que toutes celles et ceux qui nous avaient dit que l'armée russe on avait plus sous le pied se sont trompés. Et que, en réalité, chacune des secondes que nous perdons à débattre si oui ou non nous devons fournir des armes à l'Ukraine offre à Vladimir Poutine un répit pour reconstituer ses forces et ensuite mener la contre-offensive. Et donc toutes celles et ceux qui au fond plaident pour une forme de cessez-le-feu en Ukraine en nous disant que Vladimir Poutine bien s'arrêterait là, ce qui se passe aujourd'hui autour de Kharkiv nous montre que c'est exactement l'inverse. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là, il va poursuivre son offensive et Vladimir Poutine est une menace pour la sécurité de tous les Européens et tous les Européens doivent continuer les livraisons d'armes, les augmenter, les accélérer pour défaire le tyran russe.
Livraison d'armes, voire plus, dit le président. Voie de troupes, s'il le faut, dit-il toujours.
Moi, je considère que le président de la République a raison de réintroduire une forme d'ambiguïté dans le débat ukrainien, puisque depuis 2 ans, nous avions fixé nos lignes rouges, et à chaque fois, Vladimir Poutine les a dépassées sans que rien ne se passe. Et donc, je pense que c'est nécessaire de dire à celui qui n'exclut rien que nous n'excluons rien, nous non plus. Et dans ce contexte-là, dire que tout est sur la table et que tout est envisageable et que nous ne laisserons pas l'Europe et l'Ukraine se laisser martyriser comme il l'entend.
Dans cette campagne, comme directeur de campagne, vous avez tapé du poing sur la table pour que les ministres et les parlementaires se mobilisent. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'ils ont répondu à l'appel?
Oui, et Premier ministre, c'est d'abord le Premier ministre qui a battu le rappel il y a 15 jours dans ce qu'on appelle le comité politique de campagne. Et oui, les ministres étaient très largement, même quasiment tous, mobilisés ce week-end pour militer, tracter, organiser des réunions publiques autour du 9 mai, qui est la date de la fête de l'Europe. Nos parlementaires aussi, vous savez, on a organisé plus de 600 réunions publiques depuis le début de cette campagne. Et je le disais, le projet européen, c'est un pilier, un fondement de ce projet, de cette majorité politique qui s'est réunie autour d'Emmanuel Macron. Et donc maintenant, nous y allons tous au combat pour faire le meilleur score possible.
Cette majorité, elle retournera devant les urnes après les européennes ou à l'automne. Comme député, vous voyez venir une dissolution?
Ça, je ne sais pas dire ce que sera l'avenir.
Certains le souhaitent, disent ça va clarifier.
Oui, mais vous savez, moi, je me méfie de ce genre de débat parce que derrière, vous savez pas ce qui peut vous arriver. Alors, certes, nous sommes dans une majorité relative, ce qui est parfois un peu inconfortable parce que vous devez essayer de construire avec des oppositions qui elles ne veulent pas construire. Mais en attendant, le pays il avance. Et regardez aujourd'hui, c'est Tous France, c'est 15 milliards d'investissements qui vont venir dans le pays, qui vont créer des dizaines, des centaines d'emplois, des milliers d'emplois. On rouvre aujourd'hui en France plus d'usines que nous n'en fermons, on crée plus d'emplois industriels que nous n'en créons autrefois, et donc la France, elle avance en dépit des difficultés politiques.
Pierre-Alexandre Anglade, merci et bonne journée.
Merci à vous.
Merci beaucoup Christophe, on vous retrouvera demain matin à 7h45, votre invité sera le président des Républicains, Éric Ciotti.
Radio J, retrouvez le Barbier du Matin sur le site radioj.fr, sur la page Facebook de Radio J et sur l'appli Radio J. Radio J, 15h-16h30, Cyril Sarah-Cohen.
Je vous donne rendez-vous du lundi au jeudi avec un invité.
Et je suis ravie d'être invité à Radio J.
Des chroniques et un coup de cœur à vous faire découvrir.
Et ce temps de parole, honnêtement, est très précieux, donc merci à vous.
À tout à l'heure.
Radio J.
Vous
vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune immobilière,
Victor Vince, directeur général du MDA France.
Un don vous permet de sauver des vies en Israël. Le Magen David Adom n'est pas financé par l'État d'Israël. Véhicules médicalisés, matériel médical, transfusions sanguines, grâce à votre générosité, des milliers de vies sont sauvées chaque année.
Faites de votre IFI un don en faveur de la vie. MDA France, 40 rue de Liège, Paris. MDA-France.org.
MDA-France.org.
Comme beaucoup, vous pensez que votre avenir et celui de vos enfants se jouent en Israël? Préparons ensemble votre Alia.
L'Agence juive vous invite au salon de l'Alia pour vous aider à transformer votre rêve en réalité.
Éducation, logement, santé, fiscalité, emploi.
Des spécialistes vous accompagnent pour construire les étapes de votre projet d'Alia pas à pas.
Grand salon de l'Alia à Paris, le dimanche 19 mai de 10h à 18h.
Inscription obligatoire sur agencejuive.org.
L'adresse vous sera envoyée après inscription.
Sarcelles, la petite Jérusalem. Du 12 au 16 mai, participez à une initiative sans précédent. La construction du centre du judaïsme du Val d'Oise, Bereshit. Un projet adossé à la grande synagogue de Sarcelles, vital pour l'avenir de la communauté juive. Un projet qui a déjà franchi des étapes clés, qui arrive désormais à son achèvement. Devenez un pilier de notre petite Jérusalem. Cliquez sur le lien charidi.com/Bereshit. charidi.com/Bereshit. Votre générosité fera toute la différence.
Menace sur les démocraties. C'est le thème de la conférence de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, organisée par le Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, mercredi 15 mai à 19h30. Menace sur les démocraties. Mercredi 15 mai à 19h30 au Centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, 11 rue du 8 mai 1945, Saint-Henri-Gozlan.
Assib Créteil.
Assib Créteil. 01 43 77 01